Bonjour chers auditeurs, je vous propose de remonter un petit peu dans le temps. Nous sommes le 4 octobre 1957, il y a 61 ans. Ce jour-là, l'URSS met sur orbite le premier satellite de l'histoire, le premier engin à s'échapper de l'attraction terrestre, Spoutnik, en russe, satellite ou compagnon de route. Nom de code en URSS, PS1. Plostechi Spoutnik numéro 1. Et la dénomination américaine COSPAR, 1957-001B. COSPAR, c'est le Committee on Space Research, le Comité international de recherche spatiale. Spoutnik 1, c'est une sphère de 6 kg, de 8,6 kg et de 58 cm de diamètre, porteuse d'un simple émetteur radio qui va envoyer les fameux bip, 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 détectés depuis la Terre et qui resteront dans la mémoire de tous. Il a été développé par Leonidas Ivanovich Sedov, et est constitué de 60 000 pièces. Placé sur une orbite de 228 km au périgée, le plus près de la Terre, à 947 km, l'apogée, au plus haut, il fait un tour de la Terre en 1h36. La fusée Spoutnik qu'il a lancée depuis Baïkonour affichait 120 tonnes de poussée, pour, je rappelle, un satellite de 8 kg. Spoutnik émettra son bip pendant 21 jours et fera environ 1400 tours de la Terre avant d'y retomber, début janvier 58. Parcourant 70 millions de kilomètres dans l'espace. Mais on apprendra plus tard qu'il avait été détruit en vol par un choc avec une météorite le 22 décembre et est donc retombé en plusieurs morceaux le 4 janvier 58. Si personne ne vit le satellite, en revanche, sa fusée porteuse fut visible jusqu'au 1er décembre 57, car elle était aussi brillante que Vénus. Une partie de la fusée tomba sur le territoire des États-Unis, à côté de Fairbanks. Drôle de pied de nez. Spoutnik fut surnommé la Lune Rouge, en référence au pays d'origine, mais aussi Bébé Lune, par Paris Match, dans son numéro du 19 octobre 57. Cette mise sur orbite a été un événement considérable, même pour la communauté scientifique. En 1957, à l'école polytechnique, pourtant haut lieu de science, on enseignait qu'il serait impossible de placer un objet en orbite terrestre. Puis, le 20 octobre, Radio Moscou présentait à la presse la première voyageuse de l'espace, une petite chienne nommée Laïka, la boyeuse, passagère du prochain Spoutnik 2, satellite d'une masse de 508 kg. Le 3 novembre 57, à l'occasion du 40e de la Révolution d'octobre, elle est le premier être vivant à aller en orbite terrestre, démontrant sa capacité à survivre dans cet environnement. Laïka était un croisement entre un husky et un terrier de 3 ans environ, au pelage blanc et noir. Au moment du lancement, son cœur s'était mis à battre très fort, mais il était redevenu normal au bout de 3 heures. Elle reçoit pour nourriture un gel fait de collagène, de pain et de viande, la capsule emportant de la nourriture pour une semaine, soit beaucoup plus que le temps de vol prévu, avec un retour en parachute. Elle porte sur elle plusieurs instruments de mesure pour le rythme cardiaque, la respiration et la tension artérielle. Mais elle n'était pas le premier être vivant à aller dans l'espace. Les soviétiques avaient envoyé la chienne Kudryavka, frisette, qui avait déjà fait un saut de puce à 200 km d'altitude et était redescendu en parachute. D'ailleurs, plusieurs associations de protection des animaux à travers le monde se sont indignées de l'utilisation de ces pauvres animaux dans des conditions très sévères, avec tous les risques associés. D'ailleurs, Laïka n'aura pas la chance de la chaîne précédente. Elle restera dans sa cabine, faisant 2570 tours de la Terre, parcourant 120 millions de kilomètres, avant que Spoutnik 2 ne s'abîme dans l'Atlantique le 14 avril 58. Mais, dès le 12 novembre 57, la presse russe annonçait la mort de la petite chienne, empoisonnée avec la dernière bouchée de sa nourriture pour ne pas avoir à souffrir d'une lente agonie. Et ce n'est qu'en 2002 que l'on apprendra qu'en fait, Laïka n'avait survécu qu'entre 3 et 5 heures au vol. Le stress, la température dans la cabine, plus de 40 degrés, l'absence de protection contre les rayons cosmiques solaires auront eu raison du premier être vivant à s'aventurer dans l'espace. Un monument sera érigé en 2008 en son honneur. Ensuite, la masse des Spoutniks s'accélère de manière galopante. 83 kg en 57, 508 en novembre, elle passe à 1300 kg en 58, en mai 58 pour Spoutnik 3. Et ce seront deux autres chiennes soviétiques, Belkra et Strelkra, qui auront le privilège d'être les premiers êtres vivants à faire un aller-retour dans l'espace, le 19 août 60, après avoir effectué 18 orbites à bord de Spoutnik. Et elles reviendront en parachute. Le deuxième vol embarquant deux chiennes, Tcholka et Mouchka, ainsi que d'autres petits animaux, malheureusement ne suivra pas la bonne trajectoire de rentrée sur Terre. Et tout cet équipage se désintégrera dans l'atmosphère. Au total, ce sont 19 chiens qui seront envoyés par les Soviétiques, aux alentours de 100 km d'altitude. Les chiens avaient été choisis que leur physiologie était bien connue et qu'ils se prêtaient facilement à l'entraînement. À noter que d'un côté, les Américains enverront des rongeurs et des singes pour tester l'environnement spatial. Mais avant de poursuivre le récit de cette aventure, il est bon de faire un rappel de quelques notions. Commençons par quelque chose de bien connu, la vitesse de la lumière. Tout le monde sait qu'elle est de 300 000 km à la seconde. Cette valeur fut mesurée en 1849 par le physicien français Hippolyte Fizeau à Paris, entre la butte Montmartre et la colline de Suresnes. Le physicien connaissait la distance, 17 266 mètres, il mesura le temps mis par un faisceau de lumière pour faire un aller-retour et en déduisit sa vitesse. Puis elle fut figée en 1953, la précision des instruments actuels ne permettant pas d'aller plus précisément dans la mesure, et elle est fixée aujourd'hui à 299 792,458 km par seconde. On peut donc, avec cette valeur, calculer combien mesure une année-lumière. Une année-lumière, c'est quelque chose qu'on utilise très couramment en astronomie. Donc, une année-lumière, ça fait 300 000 km par seconde, que multiplie 60 secondes, que multiplie 60 minutes, que multiplie 24 heures, que multiplie 365 jours. Je vous fais grâce des années bissextiles. Soit 9,461 000 milliards de kilomètres. Pour arrondir, 10 000 milliards de kilomètres. Et pour fixer les idées, parce que ces valeurs de milliards, ça ne pose pas grand-chose, 1 milliard de secondes, ça fait 32 ans. Et 1 milliard de minutes, 2000 ans. En astronomie, on utilise une autre unité, l'unité astronomique, correspondant à la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Maintenant qu'on a vu ce que représentait une année-lumière, on va regarder ce qui se passe dans l'espace gigantesque qui nous entoure. On estime que l'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années, aux alentours de ça. Et du fait de son expansion continue, cet espace qui est né il y a presque 14 milliards d'années et qui gonfle en permanence, serait aujourd'hui de 45 un rayon de 45 milliards d'années-lumière. Donc on est dans le milieu d'une sphère qui fait 90 milliards d'années-lumière, soit 850 000 milliards de kilomètres. Ça devient légèrement grand. Dans cet univers, notre galaxie, la Voie lactée, qui mesure 10 000 années-lumière, c'est-à-dire rien, se déplace à 620 km par seconde dans la direction des constellations de l'Hydre et du Centaure. Je vous ai parlé de 300 000 km à la seconde pour la lumière. Ça fait quoi? Ça représente quoi? À cette vitesse, elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Elle venait 1 seconde 3 pour venir de la Lune. 8 minutes 20 secondes pour venir du Soleil. De Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil, 5h30. Et de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, dans le système stellaire Alpha du Centaure, 4,3 années. Ce qui fait que notre plus proche voisine est à 41 000 milliards de kilomètres. L'étoile polaire, celle qui nous donne le Nord, est à 430 années-lumière. La lumière que vous voyez aujourd'hui, elle a été émise à la fin des années 1500. Et les astronomes observent quotidiennement des étoiles dont la lumière a été émise il y a des milliards d'années. Vous voyez, les distances dans l'espace, c'est quelque chose de considérable. Pour être beaucoup plus près de nous, pour aller sur la Lune, les vaisseaux Apollo, qui marchent à la vitesse d'escargot de 48 000 km/h, propulsés par les fusées Saturne V, émettraient 10 heures pour rejoindre l'orbite lunaire si elles allaient en ligne droite. Mais la balistique planétaire ne permet pas ça. Il faut prendre d'autres chemins. Et le voyage Terre-Lune dure 3 jours. Par exemple, si on voulait aller sur la Lune avec une voiture roulant à 130 à l'heure, il faut quand même respecter les limitations, il faudrait 111 jours. Et à pied, 8 ans. Pour aller sur Mars, on estime le voyage à 7 mois, quand Mars se trouve le plus près de la Terre. Pour Pluton, 140 jours. Et à cette vitesse, le voyage vers Proxima du Centaure durerait 80 000 ans. Les étoiles nous sont donc ce jour totalement inaccessibles, avec nos connaissances actuelles. On a parlé du Soleil, on va rentrer un petit peu dans le système solaire, mais le système solaire tel qu'il était vu par nos anciens. Pour les Grecs du temps d'Homère, la Terre était plate, ronde, entouré d'un océan infranchissable et s'appuyait sur d'immenses colonnes soutenues par le géant Atlas. Le soleil, Phébus, après avoir parcouru le ciel sur son chariot de feu tiré par 4 chevaux ailés, traversait la nuit au cours d'un voyage souterrain à bord d'un navire en or, forgé par Vulcain. La Voie lactée a été nommée initialement par les Grecs Galaxia Cyclos, car il voyait un cercle de lait que la déesse Junon aurait perdu en allaitant Hercule. C'est d'une poésie fantastique. Si nous avons conservé l'idée du lait pour décrire la lumière laiteuse issue de milliards d'étoiles qui composent cet ensemble, les astronomes ont choisi de désigner par galaxie tout regroupement similaire d'étoiles. Le terme de planète, lui, vient du nom donné par les Grecs, toujours eux, planétès, qui signifie errante, vagabonde, car elle bouge par rapport à un observateur terrestre. Mais ne sentant pas bouger le sol sous lequel ils étaient, les hommes en ont déduit que la Terre, leur Terre, était immobile et que c'est tout le reste de l'univers qui se déplaçait autour d'eux. Si on rentre un petit peu maintenant dans la constitution de notre système solaire, à tout seigneur, tout honneur, voyons d'abord le Soleil. C'est une étoile moyenne, banale dans l'univers, de 140 millions de kilomètres carrés, de diamètre, pardon. Ça fait quand même 110 fois celui de la Terre. Sa masse, le Soleil, elle représente 99,9% de celle du système solaire. C'est-à-dire qu'à sa constitution du système solaire, il a quasiment tout mangé, ne laissé que des miettes. Il héberge chaque seconde une énergie équivalente à 4 millions de tonnes de gaz, en transformant de l'hydrogène en hélium. Et il y a dans notre galaxie, la Voie lactée, environ 150 milliards d'étoiles, bien plus lumineuses que notre Soleil. Notre galaxie, elle, pèse 700 milliards de masses solaires. Et dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Elles sont complètement... Aujourd'hui, on ne sait pas les dénombrer. Il avait été écrit par les savants de l'époque que le Soleil était un astre brillant et parfaitement homogène. À tel point que lorsqu'un jésuite, le révérend père Schneider, aidé de l'étudiant Fabricius, en 1614, déclara à ses supérieurs qu'il avait vu des taches à sa surface, son supérieur lui répondit « Impossible, le soleil ne peut se flétrir. » Rajoutant, menaçant, « Je voudrais simplement recommander à votre excellence de s'en tenir à la doctrine des anciens et de ne pas enseigner les idées de certains modernes. Soyez certains que cela nous déplaît et que nous ne laisserons aucun des nôtres publier quoi que ce soit de tel. » Galilée observait lui aussi que le soleil portait des taches sombres à sa surface. Et il s'est rendu compte de la rotation de notre Soleil, grâce à ses taches qui bougeaient. Au XIXe siècle, un amateur d'astronomie allemand, Samuel Heinrich Schwabe, s'était mis à comptabiliser les évolutions des taches sur le Soleil. Et en 1843, il mit en évidence un cycle de 11 ans sur la fréquence de ces taches solaires, cycle qui porte son nom. Ce cycle varie entre 9 et 11 ans. Elles traduisent, ces taches, une augmentation de l'énergie dégagée par le Soleil, à laquelle est associée une augmentation des radiations solaires. Radiations qui vont venir perturber les échanges radioélectriques, les communications satellitaires, les transports d'énergie, les transports d'électricité sur Terre, dilater l'atmosphère, ce qui aura pour conséquence de freiner un peu plus les satellites en orbite terrestre. Et, évidemment, en envoyant dans l'espace un flux de particules énergétiques plus important, d'augmenter les doses de radiations reçues par les astronautes en vol dans l'espace. A noter que les découvertes de ces ondes radioélectriques émises par le Soleil est due au hasard. Et en fait, parce qu'elles perturbaient les ondes radar, technologie mise au point par les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour surveiller les avions allemands qui s'approchaient des côtes anglaises. En février 1942, les faibles échos par les appareils ennemis étaient noyés dans un bruit radioélectrique. Et le physicien Hay en découvrit l'origine, le Soleil. C'était un secret militaire qui ne fut partagé avec la communauté scientifique qu'une fois la paix revenue, en 1945. Les planètes maintenant. Il y a 9 planètes dans notre système solaire. Ce sont, de la plus proche du Soleil à la plus éloignée, Mercure, à 58 millions, puis Vénus, à 108 millions de kilomètres. La Terre, nous sommes à 150 millions de kilomètres. On fait le tour du Soleil en 365 jours. Mars, 228 millions de kilomètres. Jupiter, 779 millions, Saturne, 1,5 milliard de kilomètres, avec un diamètre de 108 000 kilomètres. Uranus, 2,9 milliards de kilomètres, Neptune, 4,5 milliards de kilomètres, et enfin Pluton, à presque 6 milliards de kilomètres du Soleil. qui lui tourne en 248 ans. Pour se rappeler de cet ordre, il y a une phrase clé. Mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce. Mais Pluton a été déclassé le 24 août 2006 et mis au rang de planétoïde. Avec ce déclassement de Pluton, on peut garder cette phrase en remplaçant une nouvelle pièce par une nouveauté. Une autre phrase permet de retrouver l'ordre des planètes. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Et on peut y rajouter plus vieux si on ne veut pas oublier Pluton. Mais l'inventaire du système solaire n'est pas fini. Aux 8 ou 9 planètes connues, les astronomes sont sur le point d'en rajouter deux. Une neuvième à 650 unités astronomiques du Soleil, de la taille de Jupiter, et une dixième à 60 millions d'unités, de la taille de la moitié de la Terre. Les trajectoires des planètes connues aujourd'hui montrent des irrégularités que les ordinateurs des astronomes, qui sont de plus en plus précis, n'expliquent que par la présence de ces deux corps célestes, orbitant autour du Soleil en 10 à 20 000 ans. La Terre. Elle orbite autour du Soleil en une année, à la vitesse de 30 km par seconde. Elle fait un tour sur elle-même en 23 heures, 56 minutes, 4 secondes, ce qui a amené Jules César, en 46 avant Jésus-Christ, à rajouter un jour tous les 4 ans, créant une année bissextile, ce qui aurait été valable si la Terre tournait exactement en 24 heures, ce qui n'est pas le cas. D'où, en 1582, une modification introduite par le pape Grégoire XIII, qui modifia ce rythme de 4 ans en mettant une exception pour les années divisibles par 100 pour obtenir un cycle valable pour des milliers d'années, créant ainsi le calendrier grégorien qui est toujours en usage aujourd'hui. Parlons un peu dans quoi vivent, évoluent ces planètes, nos planètes proches et beaucoup plus lointaines, le vide spatial. En fait, ce n'est pas un vide complet, c'est un gaz très dilué, quelques millions d'atomes par centimètre cube. Celui de notre système solaire est composé de particules de matière, essentiellement de l'hydrogène éjecté par le Soleil, ainsi que de microscopiques grains de poussière arrachés aux comètes lors de leur passage près du Soleil. On a un satellite, CESDEO, Solar Dynamic Observatory, de la NASA qui scrute le Soleil depuis 2010. Et la NASA a créé un film qui permet de voir le Soleil et ses éruptions gigantesques sur le site HTTP, SVF, QSFC, NASA, Gov, etc. Ça, le site, il sera, le détail sera sur le site. On entend beaucoup parler d'apesanteur ou d'impesanteur. En fait, ça n'existe pas, l'impesanteur ou l'apesanteur. Même dans l'espace le plus profond, tout objet est soumis à une attraction des corps situés autour de lui, quel que soit leur éloignement. On n'échappe pas à l'apesanteur, personne n'y échappe. Par contre, l'impesanteur se caractérise par sa tension de chute libre qui est celle d'un corps, abandonné à lui-même sans moteur, tournant sans fin dans le vide intersidéral. Ce qui fait tourner tous les corps autour des étoiles. En fait, il ne tourne pas, il tombe. Mais il tombe indéfiniment. Je voudrais vous parler des géocroiseurs. On a parlé des planètes, du Soleil, mais des géocroiseurs. Les géocroiseurs, ce sont des gros rochers qui circulent dans l'espace et qui croisent parfois l'orbite des planètes solaires. Il y en aurait 700 000 à gravité entre Mars et Jupiter. Deux programmes américains, Pan-STAR et Catalina Sky Survey, sont en charge de détecter tout objet de taille supérieure à 140 mètres. Mais seul un tiers de ces objets sont répertoriés. En 2023, un nouveau satellite américain, LSST, devrait augmenter ce pourcentage. Et ces géocroiseurs régulièrement viennent nous rendre visite. En 1er septembre 2017, il n'y a pas très longtemps, un astéroïde de 4,4 km de largeur, Florence, nous a frôlé à 7 millions de kilomètres. C'est pas beaucoup, 7 millions de kilomètres. Un autre, Oumuamua, messager en langue hawaïenne, sorte de cigare de 40 mètres de longueur et 40 mètres de largeur et 400 mètres de long, en octobre 2017, venait de la constellation de la Lyre et n'a fait qu'un passage rapide dans notre système solaire. Il le quittera fin 2019, poursuivant sa trajectoire vers Pégase. Et en fait, au départ, on pensait que c'était un astéroïde, mais en fait, c'était une comète, avec un passage une périodicité très élevée. Beaucoup plus près de nous, le 16 mai 2018, un astéroïde est passé à 200 000 km de la Terre, c'est-à-dire entre la Terre et la Lune. D'une taille comprise entre 60 et 120 mètres, Sa chute sur Terre aurait provoqué une catastrophe bien plus importante que la chute de la météorite de Tcheliabinsk en Russie, qui ne dépassait pas 20 mètres, et qui, en se désintégrant dans l'atmosphère en 2013, a fait voler en éclats des milliers de vitres, blessant 1500 personnes, et rasa une forêt sur une zone de 20 km. Comme il y a un risque, et que les humains en sont conscients, afin de prévenir l'impact d'un astéroïde sur la Terre, plusieurs projets ont vu le jour. Un des plus avancés est celui de la NASA, DART, qui doit tester une technique de déviation. Cette sonde de 500 kg percutera vers 2019 la lune Diadimoon de l'astéroïde Didymos, à la vitesse de 6 km/s. L'impact devrait la dévier de sa trajectoire, et deux sondes, une européenne, AIM, et une américaine, AIDA, iront mesurer la caractéristique couple de ce couple d'astéroïdes et devraient voir la déviation introduite par cet impact. Une autre idée, pour les éloigner, il ne suffit pas de les éloigner, pas beaucoup, il faut simplement qu'ils passent à quelques milliers de kilomètres de la Terre et qu'ils ne nous touchent pas. Une autre idée, c'est de peindre l'astéroïde. Peignant l'astéroïde, ça absorberait les rayons solaires qui feraient pression sur le corps et le feraient dévier de sa trajectoire. Ce projet pourrait être mis en œuvre par le passage de l'astéroïde Bennu, un petit caillou, 500 mètres de diamètre, pesant 3,2 milliards de tonnes, vologuant à 100 000 km/h et qui croiserait la Terre vers 2135 avec un risque de collision non négligeable entre 2175 et 2199. Et sur ce petit astéroïde, on a une sonde est allée récupérer quelques grammes, entre 60 et 200 grammes, la sonde Osiris-Rex. En août 2018, elle a prélevé et elle va les ramener sur Terre. Enfin, une autre solution serait d'adjoindre un astéroïde à une sonde qui jouerait un rôle de tracteur gravitationnel en attirant l'objet qui le ferait dévier de sa trajectoire, évitant l'impact avec la Terre.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off. With you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back.
Après avoir vu notre environnement proche de planète, voyons maintenant quelles sont les relations que l'homme a entretenues avec le ciel et l'espace. De tout temps, les hommes ont regardé le ciel, suivi la course du soleil et de la lune, vu les planètes défiler devant leurs yeux, ont été émerveillés par la Voie lactée. Chaque humain, sur cette terre, et ce depuis la nuit des temps, a été un astronome. Qui n'a jamais levé les yeux, la nuit, sans être subjugué par le spectacle de la lune et des étoiles? Le destin des hommes a toujours été influencé par ce qu'ils voyaient dans le ciel. Et l'observation des étoiles et des planètes est sans doute née de la crainte des hommes primitifs devant ces phénomènes inexpliqués. Dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, on voit un homme préhistorique nommé Guetteur de Lune scruter le ciel toutes les nuits. C'est lui qui sera en contact avec l'objet envoyé du ciel. Mais il faut voir ou revoir ce film pour en apprécier la poésie ou la prophétie, c'est selon l'imaginaire de chacun. Une éclipse de soleil a toujours été interprétée comme un mauvais présage. Les anciens craignaient que le ciel ne revienne pas les éclairer. Idée reprise par Hergé dans « Tintin et le tombe du soleil ». De nos jours, lorsque le soleil disparaît, que les animaux arrêtent de bouger, se taisent et que l'obscurité se propage, qui est vraiment à son aise? Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, une bataille entre Mèdes et Lydiens fut interrompue parce qu'une éclipse de soleil se produisit et tous les guerriers se mirent à fuir. Épicure, 342-270 avant Jésus-Christ, écrivait à Hérodote « Il y a une infinité de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. » Plus près de nous, le passage de la comète de Halley en 1066 fut interprété favorablement par Guillaume le Conquérant, juste avant son départ pour envahir l'Angleterre. Cette comète figure sur la célèbre tapisserie de Bayeux, en Normandie. Et Pascal disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie » au milieu du XVIIe siècle. Et il exprimait le vertige causé par l'immensité d'un univers que l'on commençait à peine à appréhender. Les hommes ont observé le ciel, mais comment l'ont-ils représenté? Dès l'âge de la pierre polie, on trouve des sujets ailés ou des divinités munies de plumes. Sur les murs des grottes préhistoriques, telles celles de Lascaux, nos ancêtres ont peint des étoiles, voire des constellations. Les hommes ont peuplé le ciel de figures connues, les signes du zodiaque, poissons, cancer, verseau, ou les constellations. La constellation que l'on appelle aujourd'hui la Grande Ourse se trouve grossièrement gravée dans une coquille datant de l'âge de pierre. Pour les Égyptiens du temps des pyramides, le ciel était soutenu par une vache céleste. Les Égyptiens se représentaient l'univers sous la forme de la déesse Nout, le ciel, qui s'appuyait sur la terre, dont le maître était Geb, et soutenu par Chou, le dieu de l'air. La terre était un cercle parcouru en son centre par un fleuve, le Nil. Et l'année était déjà divisée en 365 jours. La lune était la déesse Isis et le soleil Ra, tous deux portant sur leur tête la lune, l'autre le soleil. Un cercle de bronze daté de 1600 avant Jésus-Christ, le disque de Nebra, représente le ciel. Très précisément. Ptolémée dressa au IIe siècle une carte du ciel sur laquelle figuraient 48 constellations. Et les 12 constellations du zodiaque sont représentées dans l'Atlas de Baptiste Agnès en 1543. Cette vision terrestre ne correspond à aucune réalité physique. Il n'y a aucune relation entre les étoiles d'une même constellation, qui sont séparées parfois par des millions d'années-lumière. Le seul lien est d'apparaître pour nous proches les unes des autres sur la voûte céleste. Quelqu'un a dit, c'est russe, Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais, comme ce physicien mathématicien russe l'a déclaré en 1920, si la Terre est le berceau de l'humanité, d'accord, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Ce qui pousse les hommes à aller au-delà des étoiles. Simple retour à la case départ, les atomes dont nous sommes faits ont été créés par des explosions des étoiles et dispersés dans l'univers au cours de phénomènes dantesques. Qui n'a jamais entendu dire l'expression « poussière d'étoiles » ? C'est l'astronome anglais Fred Hoyle qui a compris qu'une grande partie des éléments chimiques se forment au sein des étoiles, desquels elles ont été expulsées lors de ces phénomènes stellaires. On observe dans l'univers de gigantesques masses sombres, riches en poussière et en gaz, qui vont, par le jeu des attractions, se contracter pour créer de nouvelles étoiles. Ces zones sont appelées pouponnières d'étoiles, c'est mignon. Une des plus célèbres est celle nommée les piliers de la création, dans les nébuleuses de l'aigle. Les hommes ont fait des représentations du monde, mais comment ont-ils imaginé sa création? Il y a 5000 ans, pour les habitants de Babylone, le dieu du ciel, Anu, fut créé par la femme originelle, Tiamat, et Apsu, le dieu de l'abîme et des océans. Et il créa ensuite Ea, le dieu de la terre. Dans son ouvrage « Dernière nouvelle du cosmos », Hubert Reeve décrit comment plusieurs civilisations ont appréhendé la création du ciel. Pour les Indiens Upanishad, au début, l'univers n'existait pas. Il en vint à exister. En Polynésie, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni terrain, ni montagne. Tout était confusion. En Égypte, le ciel n'existait pas, la terre n'existait pas. Les hommes non plus. Les dieux n'étaient pas nés. Il n'y avait pas la mort. Pour les Maoris de Nouvelle-Zélande, l'univers était dans l'obscurité, avec de l'eau partout, sans aurore, sans clarté, sans lumière. En Inde, pour la communauté Rig Veda, il y avait au début l'obscurité. Tout était en eau. Pour les Mayas, au début tout était calme, silencieux et immobile. Rien n'existait sauf le ciel vide et la mer calme dans la nuit profonde. Plusieurs civilisations, en Égypte, en Grèce, en Inde, ont imaginé l'univers sorti d'un œuf cosmique. Ces textes montrent que les hommes se sont depuis les temps anciens interrogés sur ce qu'il y avait avant, ayant apporté des réponses, car l'homme a toujours besoin de réponses. On ne peut pas vivre avec des questions non résolues. Et la science d'aujourd'hui est-elle si éloignée de ces imaginaires? Ne parle-t-on pas de multivers, sorte d'œuf à l'échelle astronomique, qui enfanterait d'autres univers à partir d'univers existants, en passant par les trous noirs? Et par ailleurs, dans une tradition hindouiste, on retrouve l'idée d'un univers cyclique. Toutes ces visions ont été faites par l'homme de la rue, du peuple, on va dire. Mais quelle était la vision par les astronomes et les scientifiques? Les Chinois se sont toujours intéressés à l'astronomie. Jean-Marc Bonnet-Bideau est l'auteur d'un livre retraçant cette histoire, 4000 ans d'astronomie chinoise et des officiers célestes, édité en 2017 aux éditions Belin. Pendant la dynastie Han, au IIIe siècle, ils mesurent et regroupent les étoiles. Plus concrètement, les astronomes chinois observèrent une supernova près d'Antares en 1300 avant Jésus-Christ. En Angleterre, les menhirs de Stonehenge, à voir si vous avez l'occasion, c'est quelque chose d'extraordinaire, érigés entre moins de 1800 et moins 1100, forment un observatoire astronomique dans lequel on peut lire les différentes saisons. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, un groupe de philosophes grecs imagina la rotondité de la Terre. Et c'est au IVe et au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Héraclite du Pont et Aristarque de Samos qui mirent le Soleil au centre de l'univers. Ératosthène, en mesurant l'angle du Soleil le 21 juin 200 avant Jésus-Christ à Alexandrie et en connaissant la distance entre Alexandrie et Sienne, aujourd'hui prénommée Assouan, où le Soleil tombait à la verticale du puits au fond à cette date, calculait la courbure de la Terre à 2% près. Je rappelle, on est en 200 avant Jésus-Christ. Il calcula aussi la distance Terre-Lune avec une remarquable précision. Par contre, sa mesure de la distance Terre-Soleil était fausse. Elle donnait 7 millions de kilomètres au lieu de 150 en réalité. Et en se rendant compte de la différence de la taille entre la Terre et le Soleil, il eut l'intuition que c'était la Terre qui se déplaçait autour du Soleil, le mettant au centre de l'univers. Mais cette théorie fut réfutée au IIe siècle après Jésus-Christ par un Grec nommé Claude Ptolémée, qui écrivit à Alexandrie un traité d'astronomie plaçant la Terre au centre de l'univers, la considérant comme ronde. Hippétarque de Nicée, en 134 avant Jésus-Christ, observa une nova dans l'étoile du Scorpion. Il rédigea le premier catalogue d'étoiles. On a parlé des Chinois, mais les Indiens ont énormément travaillé aussi, il y a énormément d'astronomes en Inde. Et c'est un astronome indien, Brahmagupta, mais en 598, qui rédigea un traité, le Brahmaputashidanta, dans lequel il s'interroge sur les idées émises par son prédécesseur, Aryabhata, lui reprochant de remettre en cause le principe selon lequel les planètes et les étoiles tout autour de l'axe de la Terre, qui situait pour les Indiens au sommet du mont Meru. Anaximandre de Millet, aux alentours des années 600, considérait la Lune et le Soleil comme les corps célestes les plus éloignés, la Lune se trouvant derrière le Soleil. Il parlait d'une infinité de mondes qui naissent et qui disparaissent dans l'infini du temps et de l'espace. Entre 1250 et 1500, à l'apogée de la civilisation aztèque, qui sera éliminée par l'arrivée des conquistadors espagnols, les astronomes se représentaient le ciel avec au centre leur dieu du soleil, auquel ils offraient des sacrifices humains. Il fallut attendre le XVIe siècle pour que le Polonais Nicolas Copernic, en 1543, fit ce qu'on appelle la révolution copernicienne, en remettant le soleil au centre de notre système solaire et en publiant son De revolutionibus orbium coelestium, de la révolution des orbes célestes. Il sera mis à l'index par les autorités religieuses en 1616, sans avoir attiré l'attention d'aucun censeur entre-temps, où il circule parmi un petit groupe d'observateurs du ciel. Car, prudent, Nicolas Copernic demanda à ce que son ouvrage ne soit publié qu'après sa mort, pour éviter les foudres de l'Église, ce en quoi il eut bien raison. Et pendant les deux siècles suivants, de nombreuses universités continuèrent à enseigner l'astronomie sur la base du système de Ptolémée. La censure sur le traité de Copernic ne sera levée qu'en 1835, trois siècles plus tard, donc il n'y a pas très longtemps. Pour revenir un petit peu dans le temps, en 1550, l'astronome perse Ayazarakiba Ubiyumn Muhammad al-Kazwini écrivait un traité sur le ciel, merveille des choses créées et les curiosités des choses existantes. Une de ses illustrations dans ce recueil montre un ange portant les différentes sphères du ciel. Ensuite, on va parler de gens qui sont plus connus. En 1582, Tycho Brahe présente un système dans lequel les planètes tournent autour du Soleil, mais où l'ensemble Soleil-planète tourne autour de la Terre immobile. C'est un petit peu comme des engrenages qui tourneraient les uns autour des autres. Il sera le premier à observer que les comètes se situent en dehors de l'atmosphère. Et en 1584, Giordano Bruno, tout d'abord frère dominicain, ordre dont il sera radié en 1592, publie « De l'infini de l'univers et des mondes », soutenant la thèse héliocentrique de Copernic. Ses nombreuses critiques formulées envers l'Église le font arrêter en 1594, emprisonné par l'Inquisition et condamné à être brûlé, ce qui sera fait le 17 février 1600 à Rome. Au XVIe siècle, les Italiens Fracastor et Dalla Porta avaient donné des indications théoriques sur des instruments qu'ils baptisèrent lunettes. Au début du XVIIe siècle, les lunetiers hollandais Hans Lippershey, Borel et Janssen avait perfectionné les premières longues vues. Galilée prend connaissance de ses travaux en 1608 et invente en 1609 la lunette astronomique, ce qui lui permet de faire de grands progrès dans la connaissance de son environnement céleste, confirmant la théorie de Copernic. Ces lunettes ne grossissaient que 10 à 30 fois et déformaient les images, problème réglé par Isaac Newton en 1668 en introduisant un miroir primaire métallique concave dans le télescope. Galilée vient à Venise présenter ses lunettes devant le Grand Conseil, présidé par le Doge en août 69. Il explique qu'il n'est l'auteur que d'une amélioration apportée à l'instrument d'un lunetier hollandais. Et sa lunette est très bien accueillie par les participants, les armateurs, qui pouvaient ainsi surveiller de loin l'arrivée de leur navire. De retour à Padoue, il pointe sa lunette vers le ciel. Il constate que la Lune n'est pas un astre parfaitement lisse, décrit par les textes anciens. Il comprend qu'elle est faite de montagnes et de plaines. Il observe aussi le ciel profond. Il découvre des milliers d'étoiles dans notre galaxie, des quatre premières lunes Jupiter, identifie les taches à la surface du Soleil. Ces observations du soleil lui brûleront petit à petit les yeux et Galilée finira quasiment aveugle. Il publie ses découvertes dans un recueil, Messager du ciel, qui fait sienne les idées de Copernic sur un monde héliocentrique, la Terre abandonnant sa position de centre de l'univers. Mais si les ouvrages de Copernic en latin n'avaient touché qu'un public restreint, lui évitant de s'attirer les foudres de l'Église, Galilée publie en 1932 à Pise, en italien, Dialogue sur les deux principaux systèmes de l'univers, que d'autres ont traduit par Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Échange contradictoire entre deux personnages défendant chacun leur vision de l'univers, Ptolémée ou Copernic. Mais la caricature donnée aux défenseurs de la thèse des docteurs de l'Église, Simplicio, fâche les inquisiteurs de l'Église, qui interdisent le livre, et dans un premier temps privent son auteur du droit d'écrire et d'enseigner l'astronomie. Mais ils exigèrent aussi par la suite la comparution de Galilée devant le tribunal de l'Inquisition, qui le condamne pour hérésie en 1633. Aux reproches formulés par l'Église, Galilée, après avoir reconnu devant l'Église que sa théorie pourrait être erronée, a répondu « Contentez-vous de nous dire comment on va au ciel, et laissez-nous le soin de dire comment va le ciel, tout en se repentant d'avoir représenté l'Église sous les traits d'un homme ridicule, et qu'il accepterait les décisions du tribunal. » Mais il a aussi ajouté une phrase un peu moins connue. Déclarer hérétique le fait de croire à ce qui est prouvé est sans doute nocif pour les âmes. Il fut condamné à résidence jusqu'à la fin de ses jours en 1642. Et à son ami Nicolini, ambassadeur de Florence à Rome, il dit qu'il regrettait de ne pas avoir pu résister et qu'il craignait que son œuvre soit perdue. Mais il rajoutera « Un jour peut-être les hommes viendront voyager dans le ciel, connaître de près ces mondes inconnus. » La terre leur apparaîtra de loin dans toute sa vérité. Ils sauront bien alors qu'elle tourne. Mais sa phrase la plus célèbre, « Et pour si mauvais soit, et pourtant, elle, la terre, se déplace, dans le sens de mouvement », n'évoque pas ici sa rotation sur elle-même, mais son déplacement dans l'espace intersidéral. Si l'Église catholique a longtemps combattu les astronomes, au prétexte que cela contredisait les saintes écritures, ce débat est clos depuis des décennies. En septembre 1956, le pape Pie XII a reçu une délégation de scientifiques représentant 74 nations lors du 7e congrès de la Fédération Astronautique Internationale qui se tenait à Rome. Il leur a dit, extrait du texte, « Le Seigneur, qui a ancré au cœur de l'homme un désir insatiable, le désir de connaissance, n'avait pas l'intention de dresser une limite à l'investigation lorsqu'il a dit « Tu régneras sur la terre ». C'est la création tout entière qu'il a conférée à l'homme et à l'esprit humain, afin qu'il la parcourt et reconnaisse ainsi toujours davantage l'infinie grandeur du Créateur. En même temps que Galilée, en Allemagne, un astronome étudie le mouvement des planètes. Johannes Kepler, assistant de Tycho Brahe, publie en 1609 Astronomia Nova, une étude sur la trajectoire de Mars. Et il montra que les trajectoires des planètes n'étaient pas des cercles parfaits centrés sur la Terre, mais des ellipses autour du Soleil. Et les lunettes de Galilée permettront à des astronomes, Hélévius en 1647, puis Grimaldi et Riccoli en 1651, d'établir les premières cartes détaillées de la Lune. Et c'est Newton en 1670 qui construisit le premier télescope à réflexion dont tous les télescopes modernes sont issus. Encore plus près de nous, en Inde, et toujours les Indiens, à Jaipur, est construit entre 1718 et 1734 un gigantesque observatoire d'astronomique que l'on peut toujours voir. Et en 1922, Robert Goddard imagine un canon destiné à envoyer un équipage sur la Lune à la matière de Jules Verne. Les scientifiques n'ont pas été les seuls à s'approprier le ciel. Les écrivains aussi, ce qui est plus facile. Ils ont été très nombreux à avoir été inspirés par le ciel. En 1620 après Jésus-Christ, Lucien de Samothrace, un Syrien, décrivit dans « Histoire vraie » le premier voyage dans la Lune, fait par un vaisseau soulevé par des vents extrêmement violents, qui ne retomba pas sur les flots, mais dériva pendant 7 jours, puis se posa sur la Lune, qu'il trouva habitée et cultivée. Après ce voyage lunaire, il s'équipa de deux ailes d'oiseau et retourna sur la Lune, puis continua vers l'étoile du matin, atteint le zodiaque et toucha les bords du paradis. Tout le monde connaît Icare, ce mythe raconté par Ovide dans Métamorphose au 1er siècle de notre ère, où le père d'Icare, Dédale, enfermé avec son fils dans le labyrinthe où le roi de Crète, Minos, les avait bloqués, construisit des ailes enduites de cire. Tous les deux s'envolèrent, mais Icare s'approcha trop près du soleil, ce qui fit fondre la cire, et Icare s'abîma dans la mer Égée. Dédale, son père, lui, parvint à voler jusqu'en Italie. Alugel, en 1600, aux alentours des années 1130, parle d'une colombe qui volait au moyen des mécanismes ingénieux. Dante, dont on connaît la Divine Comédie, il y décrit, en 1307, son ascension idéale jusqu'à l'Empyrée, à travers les ciels des différentes planètes, disposées concentriquement autour de la Lune. Et notre grand ami Léonard de Vinci, 1452-1519, laisse 3500 mots liés au vol, ornithoptère, hélicoptère, parachute, et plus de 400 dessins relatifs au vol. Il savait que l'homme pourra dominer l'air et s'élever au-dessus de celui-ci grâce à l'invention de grandes ailes qui opposeront une résistance à cet élément récalcitrant et le soumettront. Il va étudier le vol des oiseaux, dessiner des modèles d'ailes, d'abord fixes, puis articulées, puis les plans d'un ornithotéro à quatre ailes fixées sur les épaules du pilote et celui d'une autre machine volante, mais où les mouvements sont assurés par les bras et les jambes du pilote. Une autre citation prophétique de Leonardo, citée dans le livre 2001 L'Odyssée de l'espace, « Le grand oiseau prendra son envol depuis le dos du grand oiseau, ramenant la gloire au nid originel. » Cette phrase évoque à la fois les fusées à plusieurs étages, la navette spatiale et ses boosters, et les voyages dans l'infini du cosmos à la recherche des origines. L'Arioste raconte les aventures du philosophe, du paladin Astolphe, qui est allé chercher dans la Lune la raison de Roland Furieux. Frank Godwin, un évêque anglais, écrit en 1620 le voyage chimérique au monde de la Lune, dans lequel un Espagnol s'envole vers la Lune, sa nacelle étant transportée par des cygnes. Ce récit inspirera celui de Cyrano de Bergerac. Johannes Kepler, grand scientifique, astronome, est aussi un écrivain de romans. Il écrit Somium, qui verra son héros s'envoler vers la Lune, où il rencontre des sélénites de forme serpentaire, mi-plantes, mi-animaux. Et Savinien de Cyrano de Bergerac, dans son Histoire comique des États et Empires de la Lune, écrit en 1645, fait voyager son explorateur au moyen de fioles de rosée, accrochées à sa ceinture, qui, en s'évaporant au premier rayon du soleil, le transporte au-delà des cieux et retombe au-delà de l'Atlantique, à Québec. Il repart après, mais avec un vaisseau propulsé par des fusées. Il arrive dans la Lune peuplée d'hommes bêtes géants et retourne sur Terre, emporté par un de ses démons, Amical. Mais il imaginera aussi une fusée qui ira jusqu'à la Lune grâce aux aimants placés en son sommet. Isaac Newton, que tout le monde connaît pour avoir énoncé les principes d'attraction entre les corps, donnera en 1687 l'explication physique de la propulsion par jet de poudre brûlée au travers de son exposé sur le principe d'action et de réaction. Bertrand Le Bouvier de Fontenelle, philosophe et poète français, vulgarisateur de théories scientifiques, auteur de nombreuses citations, dont l'une est liée à l'espace. Ce sont les astronomes qui nous donnent des yeux et nous dévoilent la prodigieuse magnificence de ce monde uniquement habité par des aveugles. Dans son ouvrage « Entretien sur la pluralité des mondes », il explique que les étoiles sont autant de soleils dont chacun éclaire un monde. Dans sa grande encyclopédie, Diderot décrit une fusée à plusieurs étages. Si on connaît bien Edgar Poe pour ses histoires extraordinaires, on ne sait pas forcément qu'il a écrit en 1848 un roman « Eureka » dans lequel il parle d'astronomie, de trous noirs, de vitesse de lumière et de Big Bang, ou du moins d'une idée similaire, ce terme ne venant que beaucoup plus tard. Enfin, Jules Verne. sûrement le plus célèbre roman de ce prolifique écrivain, De la Terre à la Lune, écrit en 1865. Suivi en 1869 de Autour de la Lune, soit un siècle exactement avant que les hommes ne posent le pied sur notre satellite. Son véhicule est un obus baptisé Columbia, et non pas une fusée. Il est tiré à partir de la Floride, non loin du site de Cap Canaveral, d'où partiront les fusées américaines vers les lunes. Mais ces trois passagers auraient été écrasés par l'accélération, ainsi que l'a démontré l'Allemand Hermann Hubert. Il aurait fallu pour amortir le choc des coussins d'eau sur une épaisseur de 1700 km. Et la chaleur dégagée aurait vaporisé le projectile et ses occupants. Mais Jules Verne avait imaginé, pour le poser sur l'une, que son vaisseau serait freiné par des fusées. Ce roman est extraordinairement prophétique. Les astronautes deviennent réalité en 1961 avec Yuri Gagarin. Le vol circumlunaire avec Apollo 8 en 1968. Le système de rétrofusée est utilisé par quasiment tous les vaisseaux se posant sur une planète et par SpaceX pour récupérer ses lanceurs à terre. Et, fait moins connu, l'utilisation de l'aluminium, qui constituait l'obus de nos aventuriers, ne deviendra courante que 1920. Ce ne sont pas les seules inventions de Jules Verne qui seront réalisées plus tard. On trouve aussi dans Les 500 millions de la Bégone, écrit en 1787, l'idée du satellite artificiel. Mais ce n'est pas trop cher payé, $200 000, l'agrément d'avoir doté le monde planétaire d'un nouvel astre et la Terre d'un second satellite. Idée concrétisée par Spoutnik en 1957. Aussi, le sous-marin nucléaire, le Nautilus, de milieu sous les mers. C'est aussi un Nautilus qui deviendra le premier sous-marin nucléaire américain en 1955. La même année que De la Terre à la Lune, paraît un ouvrage chiné Achille Héros, dans lequel ces héros parcourent les planètes dans une fusée propulsée par de la poudre. Autre personne à s'intéresser aux étoiles, Camille Flammarion. Éditeur, publié en 1879, L'astronomie populaire. La philosophie et la technique se mêlent dans cet imaginaire consacré à l'espace. Et en 1896, le philosophe Nicolas Fiodorov publie Nouveaux principes de navigation aérienne, excluant l'atmosphère comme moyen d'appui. Il croit en l'immortalité, ce qui obligera les hommes à aller s'installer sur d'autres planètes. Dans la deuxième émission, le 8 novembre, je vous parlerai des différentes fusées de l'époque et d'autres aspects liés à l'espace. Puis nous verrons quels ont été les premiers plus lourds que l'air à s'aventurer au-dessus du plancher des vaches. Et vous découvrirez les personnages les plus importants de cette première phase de l'aventure spatiale. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, à la même heure. Si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace, Horizon Inaccessible, sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission sur ce même compte. Cette émission sera disponible sur le site de la radio. Merci à James pour la technique, à François et à toute son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.